Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de l'Instant 2. On parle souvent Méditerranée, pays de l'autre rive sur Radio Grenouille. Les révolutions arabes, c'était en 2011, 4 ans déjà. Tunisie, Syrie, c'est à l'Égypte aujourd'hui que nous allons consacrer cette émission. Alors une question simple, hein, que sont devenus ces jeunes, ces voix novatrices et libres de la révolution? L'armée remplacée parfois par les islamistes, un pays dans le chaos qui souhaitait pourtant tellement davantage. Que sont-ils devenus? Quelle est aujourd'hui la situation politique, sociale et économique de l'Égypte, ce pays des pharaons qui est à nouveau rentré dans l'histoire en janvier 2011. Quel est le bilan finalement 4 ans après? Pour nous en parler, une spécialiste. Elle a vécu en Égypte, elle y a travaillé, journaliste, auteure et créatrice d'un web documentaire éclairant sur la jeunesse égyptienne engagée. Des portraits qui font écho, qui font résonner des thèmes comme l'art, la politique, la culture, la religion, l'amour aussi. Ça, rappelons-le, c'est au printemps qu'il se vit le mieux, l'amour. Retour à son printemps, le printemps égyptien. Nina Hubinet est mon invité, vous êtes ici, mais vous êtes ailleurs, dans l'instant 2, et vous êtes chez vous.
Un moment, s'il vous plaît.
Et bonjour Nina.
Bonjour Mélanie.
Il faut que je dise salam alaikum.
Tu peux, ouais. je te réponds ou alaikum et salam.
D'accord, super, et bon, on va partir comme ça. Nina, vous vous qualifiez comment? Est-ce que vous qualifiez de journaliste? C'est ce que j'ai dit comme ça dans l'introduction, hein, sans connaître l'intégralité de votre parcours. Est-ce que c'est comme ça que spontanément vous vous présentez?
Oui, tout à fait. Oui, je me présente comme journaliste et ce que je fais, mon métier, c'est d'être journaliste. Après, c'est sûr que le web documentaire, bah, il y a le mot documentaire, donc on était plus dans une démarche documentaire, ça veut dire que on était plus sur le temps long et on a suivi donc ces cinq jeunes Égyptiens pendant plusieurs mois. Mais pour moi, c'est pas antinomique de la démarche du journaliste. Alors évidemment, il y a une différence entre un reportage et un documentaire.
Et laquelle? Tiens, commençons par ça. C'est pas évident, mais il faut tout de même en parler avant de rentrer dans le détail du web documentaire.
Bah, je pense que globalement, un reportage est en général plus là pour présenter des faits, expliquer une situation. Et dans un documentaire, il y a plus une dimension sensible aussi qui vient s'y ajouter. Donc un regard vraiment singulier d'une personne, d'un auteur.
Si je vous dis alors journaliste sensible, Nina Hubinet, vous me dites oui.
Ah oui, tout à fait.
Ça vous va bien comme ça?
Ouais.
Alors sensible, j'imagine qu'il faut l'être, on va en parler évidemment. Juste pour revenir aux origines, vous avez toujours eu beaucoup d'amour pour le Moyen-Orient, hein. C'était pas un premier essai, vous y avez vécu même.
Oui, donc j'ai vécu 5 ans en Égypte, mais en fait j'ai commencé par m'intéresser au monde arabe en général. Donc j'ai d'abord fait plusieurs séjours au Maroc, en fait. Enfin, j'ai été un petit peu en Tunisie, mais surtout au Maroc pour faire des stages dans des journaux marocains. Tel quel, notamment le magazine Tel quel. Et puis voilà, j'avais décidé de m'intéresser au monde arabe. Enfin, ça m'attirait. Et puis, c'est ça. Il y a un effet boule de neige en m'y intéressant. C'est devenu de plus en plus passionnant. Et en comprenant petit à petit les ramifications à la fois sur ce qui se passait à l'intérieur de ces sociétés et en même temps les enjeux géopolitiques de la région. Enfin, là, pour le coup, plus du Moyen-Orient parce que le Maghreb, enfin, les enjeux géopolitiques sont moins brûlants, disons. Mais donc oui, du coup, j'ai plongé la tête la première dans cette grande ère culturelle et une problématique globale, oui, du monde arabe.
Dont on mélange souvent les termes monde arabe, Moyen-Orient, Proche-Orient, tout ça c'est pareil ou pas du tout?
Bah non, effectivement c'est pas pareil puisque dans le monde arabe on englobe tous les pays qui parlent arabe, qui utilisent la langue arabe. Déjà il y a deux grandes aires spécifiques, c'est le Maghreb et le Moyen-Orient, enfin ce qu'on connaît le mieux en général, et c'est le Moyen-Orient, donc tout ce qui est autour de Israël, Palestine, Liban, Syrie et Égypte, qui est l'aire géographique qui concentre le plus les regards, enfin en tout cas le regard médiatique en général.
Surtout aujourd'hui, en ouais. effet. Vous parlez arabe, Nina Aïmé ?
Oui, je parle le dialecte égyptien.
Allez, ça veut dire qu'au Maroc, on ne vous comprend pas ?
Si, on peut me comprendre au Maroc, mais par contre, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les Marocains.
D'accord, et les Tunisiens, ça, même chose. Il y a un dialecte dans chaque pays, au Maghreb, notamment.
Bah, dans tous les pays arabes, en fait, il y a un dialecte spécifique au pays. Mais en gros, les dialectes du Moyen-Orient sont proches, et les dialectes du Maghreb sont très différents de ceux du Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour quelqu'un qui a appris une langue du Moyen-Orient de comprendre les Maghrébins. Par contre, les Arabes du monde entier, plus ou moins, peuvent comprendre les Égyptiens, parce que en fait, dans les années 50, 60 et jusqu'aux années 70, il y avait d'abord le cinéma égyptien qui était le Hollywood du monde arabe, et puis les séries télé qui inondaient tous les écrans du monde arabe. Et donc, à peu près tous les Arabes ont entendu la langue égyptienne. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'une mère de famille au fin fond de l'Atlas au Maroc va parfois insulter ses enfants, ou réprimander ses enfants avec des expressions très égyptiennes, simplement parce qu'elle les a entendues à la télévision.
Excellent, c'est bon à savoir quand on va là-bas. Est-ce que, en tant que journaliste et puis co-réalisatrice d'un webdoc, on va en parler, c'est plus simple, évidemment, pour rentrer en contact j'allais dire faire le lien de confiance avec les gens que vous interviewez.
Oui, bien
et filmer,
sûr.
D'ailleurs.
Oui, évidemment, oui. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de lier une relation de confiance.
Avec la caméra derrière aussi, ce qui est parfois pas évident.
De parler arabe, de pouvoir, même si on ne va pas forcément tout comprendre de ce qu'une personne va nous dire, mais en tout cas dans les relations quotidiennes, banales, c'est déjà bien de pouvoir s'exprimer en arabe. Ça change tout, effectivement, je pense, dans la relation.
On va faire un retour dans le temps, retour en janvier 2011, pour poser un petit peu le contexte. Vous allez nous l'expliquer, vous êtes spécialiste, notamment le 25 janvier 2011. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment en Égypte. On parlera aussi de la Syrie un peu plus tard dans l'émission, parce que ça peut quand même être lié, même si c'est un contexte tout à fait différent. Revenons avec un extrait d'un document d'Euronews, vraiment sur le jour du 25 janvier, ce qui s'est passé là-bas en Égypte.
Une quarantaine de morts, c'est le bilan des affrontements qui se poursuivent depuis samedi en Égypte, entre manifestants et forces de l'ordre. La plupart des victimes ont trouvé la mort ici, aux abords de la célèbre place Tahrir du Caire, emportées par des balles réelles ou mortes d'asphyxie, après avoir inhalé les fumées de gaz lacrymogène tirées par les forces de l'ordre. Des scènes qui ne sont pas sans rappeler les événements qui s'y sont déroulés il y a 9 mois maintenant. À quoi bon répondre à nos revendications et aux exigences de notre génération par les balles ? Je suis un citoyen égyptien qui a le droit de vivre aux côtés de ses enfants. J'ai deux pierres contre grenades lacrymogènes. Pour la jeunesse égyptienne, pas question de se faire voler la révolution. Les manifestants exigent un transfert du pouvoir aux civils et réclament le départ des militaires installés après la chute du président Hosni Moubarak. En signe de protestation, le ministre de la Culture a présenté sa démission ce dimanche. Difficile dans un tel climat de violence d'imaginer que des élections législatives libres vont pouvoir se tenir sereinement dans à peine une semaine.
Alors ça, ce sont des sons, on entend les sirènes aussi en janvier 2011, il y avait malheureusement beaucoup. C'était un petit bilan sur le contexte des printemps arabes et notamment donc en Égypte. Vous y étiez justement, vous Nina, c'est quand même un privilège, j'allais dire, quand on est journaliste, d'être là au cœur des événements. Vous le pressentiez, tout ce qui est arrivé en 2011 ?
Non.
Honnêtement.
C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de journalistes qui étaient installés en Égypte depuis des années se disaient il va y avoir à un moment ou à un autre une explosion. Mais en fait, il y avait eu déjà beaucoup d'occasions précédentes. Il y avait eu tout un mouvement social autour des juges en 2004-2005. Il y avait eu pas mal de mouvements ouvriers. En 2008, ça a été à l'origine de la création du mouvement du 6 avril, qui est un des mouvements de jeunes pro-démocratie qui ont emmené ensuite la révolution. Mais en fait, tout le monde se disait, il y a eu déjà beaucoup d'occasions. Si l'Égypte devait se révolter, elle se serait révoltée plus tôt. Et du coup, les hommes, les politologues qu'on interrogeait à ce moment-là, les politologues égyptiens, nous disaient, mais il faut bien faire la différence entre la Tunisie et l'Égypte. C'est pas du tout pareil. La Tunisie, il y a une classe moyenne éduquée qui est beaucoup plus importante. En Égypte, les gens sont beaucoup plus pauvres globalement, et donc ils sont d'abord focalisés sur le fait de chercher à manger chaque jour, et ils n'ont pas le temps de se préoccuper des questions de démocratie, de dignité. C'est pas
On se rappelle, la Révolution française a commencé avec une crise du pain, par ailleurs. Donc c'est quand même toujours un peu lié.
Le 25 janvier, on pensait qu'il y allait avoir des manifestations relativement importantes, mais on pensait que ça allait se dérouler de la même manière que les 5-6 années précédentes, c'est-à-dire
l'éternel recommencement.
200-300 personnes qui se rassemblent, qui sont en général les activistes, le noyau des activistes, et notamment des jeunes parmi eux, et puis qu'ils allaient se faire taper dessus par la police anti-émeute, embarqués dans des fourgons, et que ça s'arrêterait là.
Vous y étiez pourquoi, vous, à l'époque, Nina Hubinet?
Donc moi, j'étais correspondante en Égypte déjà depuis 2 ans, pour La Croix principalement, le quotidien La Croix, et puis je travaillais aussi pour Ouest France, pour différents journaux français. Et donc, le 25 janvier, ça a été un des moments les plus forts de ma vie, vraiment.
Qu'est-ce que vous retenez comme émotion, sentiment à ce moment-là? C'est passé dans votre tête de journaliste ou de femme?
Il faudrait que je vous raconte un tout petit peu la journée. Si
les anecdotes,
si on a le temps.
Oui, évidemment, on a tout notre temps ici.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que on était 4 amis. Donc celle qui,
Marion,
qui...
Lina, Pauline et Rachida.
Ouais, avec qui je vais faire le web documentaire dans les mois qui suivent, après la Révolution. Donc Pauline, qui est photographe, elle suivait déjà des mouvements de jeunes pro-démocratie depuis quelques mois. On les avait suivis notamment à Alexandrie, etc. Et donc, on était en lien avec une jeune fille qui s'appelle Solefa, qui est un des personnages de notre web documentaire. Et donc, Solefa nous avait donné rendez-vous le 25 janvier à 11h à une station de métro précise au Caire. Donc, on y va, on se rend au rendez-vous avec... d'espoir sur un soulèvement global du pays. On se dit évidemment on va couvrir ce qui se passe.
On y va.
et on arrive à la station de métro, on attend un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, toujours personne. Donc on se dit, on commence à rigoler entre nous, pour la révolution ils sont en retard, donc est-ce qu'on va y arriver? Et puis finalement Solefa arrive avec son groupe elle avait 4 ou 5 filles avec elle qui font partie du même groupe politique, Shabab Lia Dalawe Horia, les jeunes pour la liberté et la justice. Et donc, elle nous embarque. Alors, tout était secret ce jour-là, c'est-à-dire que les différents groupes d'activistes s'étaient coordonnés entre eux, mais ne voulaient pas donner leur point de rendez-vous à l'avance à d'autres personnes extérieures au mouvement politique. Et donc, elle nous emmène sans nous dire où. On arrive dans un quartier populaire du Caire qui s'appelle Boulak Dakrour.
Qui est au centre-ville du Caire, alors?
Non, c'est pas vraiment dans le centre-ville. Enfin, c'est pas très loin, mais c'est plutôt dans le nord, dans le nord-ouest. Et donc là, dans ce quartier populaire, on attend encore un moment. On va manger un koshari, qui est un plat traditionnel égyptien.
T'es l'eau à la bouche.
On finit de manger notre koshari et on sort du petit boui-boui où on était. Et donc là, on voit 200 activistes à peu près qui étaient rassemblés. Jusque-là, rien que de très normal.
Une journée normale au Caire,
une journée de manifestation, mais qui n'allait pas forcément déboucher sur une révolution jusqu'ici.
Ouais.
On commence à marcher avec ces activistes qui chantent leurs slogans, sortent leurs pancartes, etc. Et quelques personnes du quartier, la plupart des gens du quartier regardaient de manière, étaient un peu interloqués, peu éberlués. Puis certains se joignent au cortège et en fait il y avait une voie ferrée qui séparait ce quartier populaire d'un quartier plus riche qui s'appelle Mohandessin. Et il y a un pont qui enjambe cette voie ferrée. Donc avec le cortège on s'engage sur le pont et au moment où on arrive en haut du pont, là on voit la grande avenue du quartier de Mohandessin, et là on voit 2000 personnes,
il n'y avait pas 200,
qui attendent notre manifestation.
Incroyable.
Pour démarrer et pour s'élancer vers la place Tahrir. Et donc là, à ce moment-là, les activistes avec qui on était, Solefa et ses amis, nous ont sauté dans les bras en disant « on a réussi, on a réussi, ça y est ». Enfin, c'était d'une force pas possible, de voir que oui, ça marchait, il y a quelque chose vraiment qui se passait ce jour-là.
L'instant 2,
prenez le temps de partager
sur Radio Grenouille.
قدام اللي بني قدام السور قدام اللي معلي قدام السور قدام اللي بني قدام السور قدام اللي معلي وكمان قدام اللي واقف يحمي وكمان قدام اللي واقف يحمي وقف راجل غلبان وعمل بيبي وقف راجل غلبان وعمل فيفي عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي عالسور واللي بني الراجل عمل فيفي
Yousra El Harari, je l'ai bien dit ou...
El Hawari.
Ok, bon, c'était presque ça. El Hawari. Très bien, vous êtes dans l'instant 2 avec Nina Hubineau. Aujourd'hui, on s'intéresse 4 ans après la révolution du printemps égyptien. Nina, on va s'intéresser justement à votre web documentaire. Vous parliez de vos 3 amis, ça ? Vous étiez 4 en tout,
oui.
En 2011. Et vous avez, comme ça, eu l'idée, quel courage, de réaliser un web documentaire juste pour se mettre dans l'ambiance. Là, on entend les premières notes, effectivement, de la chanson qu'on vient d'écouter. Je vous avais demandé, comme à chaque invité de l'Instant 2, d'en choisir 2. Il y aura la prochaine juste après. Et puis mon choix aussi, quand même, j'ai un peu de place dans cette émission. Justement, le webdoc, on en parle, ça s'appelle Sout El Shabab. Donc, c'est la voix des jeunes.
Ouais.
Là, on entendait, en fait, la rue, hein, en Égypte, au Caire, j'imagine.
Ouais,
ça se passe seulement au Caire ?
Non, pas du tout. Bah, c'était un de nos objectifs, c'était justement de sortir du Caire, d'aller voir des jeunes qui ne vivent pas au Caire, même certains qui vivent très loin, comme Kyrillos, qui est un jeune étudiant copte, donc chrétien, qui vit dans le sud de l'Égypte, qui est originaire de Kéna, une ville qui est au nord de Louxor. Et donc, on avait envie de voir aussi comment, pour ces jeunes qui sont très loin du Caire et qui ont été très loin des manifestations de la place Tahrir, qu'est-ce que ça a représenté, cette révolution ? Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie ?
Alors, je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas encore le web documentaire, là, ça commence à être effectivement fréquent. Chez nous, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas un documentaire linéaire, c'est le spectateur donc, qui est internaute en général, parce que c'est en ligne, en accès gratuit, qui choisit où il va. Donc vous parliez des portraits, effectivement, il y a un espace sonore d'accueil avec cette musique, des vidéos qui durent en moyenne 3-4 minutes, 3,57 ou 3,47, je crois qu'il y a un chiffre qui revient. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais moi oui.
Non, je crois qu'il y a une erreur dans le timecode en fait, c'est plutôt ça.
Et chaque personnage,
mais moins de 5 minutes en tout cas. Ouais.
C'est ça, et chaque personnage donc, illustre un thème, la culture, l'activisme politique, la révolution. On va justement en parler. Moi, une personne qui m'a touchée et qui touche apparemment beaucoup de gens quand on en parle, c'est Imen, c'est ça, mm-hmm. Qui est la seule femme musulmane assumée et voilée, de revendiquer, j'allais dire.
Bah, en fait,
comme
il y a
portrait.
Parmi les 5 personnages, il y a deux filles, donc Solefa et Imen, toutes les deux sont musulmanes. Mm. Solefa était voilée jusqu'à la révolution et a décidé d'enlever son voile après la révolution. Mm. Et Imen, elle, est d'une famille de frères musulmans. Mm-hmm. Donc elle a vraiment cette idéologie islamiste, ouais, qui l'a complètement façonnée, enfin ses valeurs.
Et pourtant c'est presque la plus révolutionnaire.
Et en même temps elle est complètement révolutionnaire et complètement rebelle, oui.
Ouais, et puis elle est la plus charismatique aussi. On parlait de Kyrgios, l'étudiant copte, on y reviendra un petit peu après. Puis il y a aussi Solefa, c'est ça, l'activiste de la place Tahrir.
Oui, tout à fait. Donc c'est elle, ouais, qui a décidé d'enlever son voile après la révolution. Mm. Et elle effectivement c'est celle qu'on a suivie le 25 janvier au Caire.
Qui vous a sauté dans les bras.
Tout à fait. Enfin, qui a sauté dans les bras de Pauline plus précisément, mais oui, c'est ça, oui.
Oh, vous aussi, vous avez eu droit, j'en suis certaine. Et elle parle elle est avec son amoureux, Solefa.
Oui.
Voilà, et elle parle de l'éducation des hommes, c'est hyper intéressant. Lui dit, on ne parle pas de politique, on ne parlait pas de politique, Moubarak est mauvais, mais il n'y a pas d'alternative, il parle de ses parents. Il dit, nos enfants, on ne les éduquera pas comme ça. Est-ce que quelque chose a changé d'abord dans la représentation familiale depuis 2011 ? Dans la société égyptienne.
Bah effectivement, sur cette question de la politique, ce qui a changé, c'est que oui, la génération des parents de ces jeunes-là acceptait le régime tel qu'il était. C'était exactement comme le décrit Hossam. Mm. Ils savaient très bien que Moubarak était un dictateur et que globalement le régime volait les Égyptiens. Mais ils disaient de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et enfin, c'est quelque chose qui est très présent dans la mentalité des Égyptiens et qui est revenu, je pense, pas mal aujourd'hui, 3 ans après la révolution. C'est qu'on a très très peur en Égypte du chaos. C'est un pays de 80 millions d'habitants, globalement toujours très pauvre quand même. Et aussi où il y a des musulmans et des chrétiens, où il y a des tensions et des affrontements assez réguliers. Et donc on se dit, bon, il vaut mieux peut-être avoir un dictateur, mais tant qu'on a une certaine sécurité, une certaine stabilité, on préfère en rester là. Et c'est justement ce statu quo que cette génération, ou en tout cas une partie de cette génération, a voulu changer.
A brisé complètement.
Oui.
Et aujourd'hui encore, malgré tout ce qui se passe, malgré la place des islamistes, des frères musulmans en Égypte,
Aujourd'hui c'est le contraire en Égypte, c'est-à-dire que c'est l'armée qui a fait un coup d'État et qui a repris le pouvoir après que les islamistes sont arrivés démocratiquement au pouvoir. Donc il y a eu un coup d'état de l'armée en juillet 2013, la période de reprise en main complète du pouvoir par l'armée a été marquée par un massacre, donc le 14 août 2013, où ils ont tué plus d'un millier de personnes en une journée. Donc voilà, ça c'est le plus grand massacre de l'histoire moderne de l'Égypte.
Dont on a assez peu parlé.
Oui, oui, effectivement, c'est ce que je me rends compte en parlant en France ici de ça. Les gens me disent, ah bon, on a totalement oublié. Bon, c'était au cœur de l'été, hein, c'était une période propice, en tout cas, pour le pouvoir égyptien, pour perpétrer un tel massacre. Et donc voilà, ça a été une reprise en main totale. Donc maintenant, les islamistes sont complètement marginalisés. Oui. C'est-à-dire que les frères musulmans ont été déclarés organisation terroriste quelques mois plus tard. Et ils sont pourchassés, tous les leaders sont en prison. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé, l'armée donc, a commencé par réprimer les islamistes, mais ensuite, elle s'est attaquée à toutes les voix dissidentes. Mm. Donc en fait, notamment tous les jeunes qui ont été les leaders de la révolution en 2011, une grande partie d'entre eux, enfin leurs leaders en tout cas, sont en prison aujourd'hui.
Ou morts d'ailleurs.
Ou morts, beaucoup ont été tués, oui. Réduits plus ou moins au silence, ouais, parce que il est interdit de manifester aujourd'hui en Égypte. C'est-à-dire qu'on doit demander une autorisation au régime, enfin au pouvoir, pour pouvoir manifester.
C'est
quelque chose qui se passe ici en France.
Mais ont disparu, ou les vraies voix de ces vrais jeunes presque apolitiques, à religieux, qui voulaient juste la liberté, elles sont où?
Elles n'ont pas totalement disparu.
Elles sont dans votre webdoc, déjà.
Heureusement, oui. Mais non, il y a toujours des jeunes personnes en Égypte qui, enfin, Solefa par exemple et Hossam qui est son mari aujourd'hui vivent toujours en Égypte, mais ils sont beaucoup moins impliqués politiquement parce que simplement leur mouvement ne peut plus tenir de réunion. Il y a des descentes de flics très régulièrement, ils peuvent pas faire de manifestations, donc ils pensent toujours la même chose, mais ils peuvent plus vraiment s'exprimer. Donc voilà, on est en plein dans la contre-révolution. Après, ça veut pas dire que dans quelques années il se passera pas, enfin ça veut pas dire que la société est pas quand même en train d'évoluer et de changer.
Il y a un autre pays qui lutte au jour le jour depuis 4 ans aujourd'hui, c'est la Syrie. La Syrie, on avait eu l'occasion de faire une émission spéciale, deux, même trois, après les événements de 2011, et puis d'interviewer une autre réalisatrice aussi de web documentaire, qui est aussi journaliste à Mediapart, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Caroline Donati. Oui. Son web doc est toujours en ligne, ça s'appelle Journaux intimes de la Révolution. Écoutez un bout de cette interview et puis on réagit ensuite avec vous, Nina Hubinet. Syrie, journaux intimes de la Révolution. Caroline Donati, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous m'entendez. Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis Paris.
Oui, je suis avec vous, oui.
Comment ça s'est construit, cette relation avec ces trois révolutionnaires qui vous envoient des vidéos jour après jour ?
Jour après jour, depuis un an. Hein, l'histoire, l'aventure a commencé, en novembre 2012. Ils nous envoient des vidéos donc depuis novembre 2012. Et puis avec donc la réalisatrice Karine Lefebvre-Quenel, on a réfléchi à comment pouvoir rendre compte de ce combat. Et donc Oussama a décidé, nous a proposé, on a réfléchi ensemble, il nous a proposé de confier les caméras à des jeunes. Donc il connaissait Hammer, puisqu'il est originaire de la même banlieue, d'Araya, à Damas. Et puis Majid fait partie d'un réseau de journalistes citoyens, là, le réseau Cham News. Donc, et tous les deux ont répondu à l'appel.
Alors, pourquoi avoir choisi le web documentaire qui fait que le spectateur aussi est aussi acteur de son propre film ? Est-ce que c'est une référence à ce journalisme citoyen où des citoyens prennent, j'allais dire, en otage presque la caméra, l'ordinateur, l'écran pour en faire quelque chose ?
Nous, ce qu'on leur demande et ce qu'ils font dans ce travail-là, ce n'est pas du tout un travail journalistique, ce n'est, il n'y a pas du tout le filtre journalistique, et c'est un travail d'auteur. C'est eux qui réalisent ces images, ils filment quand ils peuvent, à tout moment, la nuit, le jour, mais nous, on les accompagne à distance, techniquement, on les guide aussi vers ce côté intime, parce que le constat qu'on a fait depuis le début et qui ne cesse d'être pertinent, c'est que il y a une vraie confusion sur ce qui se passe en Syrie, confusion à cause d'une certaine lecture médiatique, à cause en raison de logique médiatique guerrière ou de d'enjeux géostratégiques. Et donc, pour nous, c'était important de rendre la dimension humaine du combat de ces jeunes, qui est un combat pour l'état de droit.
Un combat pour l'état de droit et la liberté, hein, ça va de soi, enfin en théorie. Une réaction, Nina Hubinet, à cette interview, un petit extrait de Caroline Donati, c'est pas exactement le même web documentaire, parce que là, c'est eux qui envoient des vidéos avec du matériel prêté par la France, donc on n'est pas dans la même méthodologie. Mmh. Mais
non, mais ce qu'il y a peut-être d'assez similaire, c'est que nous aussi, les cinq jeunes sur lesquels, qu'on a suivis et sur lesquels on a fait le web doc, il y a aussi une démarche collaborative, c'est-à-dire que eux ont accepté de participer au web documentaire parce qu'ils avaient des choses à dire, ils avaient vraiment des choses précises qu'ils voulaient exprimer, et donc c'est à la fois nous qui leur avons posé des questions et qui les avons choisies, mais aussi eux qui ont décidé vraiment ce qu'ils voulaient dire face à la caméra.
Vous aviez une orientation dans les questions que vous leur posiez, par exemple Hammar qui est artiste, en général vous parliez plutôt de la culture, de la place de l'art dans la société égyptienne.
Oui, tout à fait, tout était par rapport à la révolution et par rapport à ce que la révolution avait changé dans leur vie. Alors pour Hammar, ça a changé beaucoup de choses dans son travail. Pour Imen Solefa, ça a changé des choses dans leur vie personnelle, vraiment. Kyrillos aussi, dans son positionnement par rapport à la société. Donc c'était vraiment ça pour nous, l'axe principal. C'était de voir qu'est-ce qu'un événement historique de cette ampleur provoque comme, euh, comme changement dans la vie personnelle des gens.
Les conséquences vraiment d'une révolution de cette ampleur-là. Juste très rapidement, avant de faire une pause musicale, Nina, quelles sont les similitudes que vous voyez comme ça, avec des petits tirés, entre la Syrie et l'Égypte ? Enfin, pas les deux pays, parce que là, on n'a pas trop de temps, mais la révolution là-bas. Sont les mêmes personnes.
Disons que oui, on peut dire qu'il y a une similitude sur le fait que le régime, à la fois en Syrie et en Égypte, n'a pas du tout l'intention de lâcher facilement le pouvoir. Mais c'est totalement différent dans le sens où le système répressif mis en place par la dictature des Assad en Syrie depuis 50 ans est d'une ampleur et d'une férocité inégalée, enfin, je pense peut-être dans le monde, en tout cas dans le monde arabe. L'Égypte, il y avait un système policier répressif, mais enfin, c'était pas, je veux dire, il y avait pas des camps de torture absolument énormes où des milliers de personnes, enfin, ou en tout cas pas des dizaines de milliers de personnes sont passées. Il y a pas eu le massacre de Hama en Syrie, je crois en 82. Il y a un quart de la ville peut-être qui a été tué. Enfin, donc c'est d'une autre ampleur, quoi, la Syrie.
Mais évidemment, des similitudes évidentes sur la voie que porte des jeunes aussi pour la révolution.
Oui, bien sûr. Là, je pense qu'il y a, enfin, en gros, la même aspiration, j'ai l'impression, dans le monde arabe et enfin, notamment au Moyen-Orient, d'une jeunesse qui aujourd'hui n'a plus envie qu'on décide à sa place, que ce soit au niveau du pouvoir politique. Donc, elle a envie de choisir qui elle met au pouvoir et qui, voilà, tout simplement.
C'est normal, oui.
Et même au niveau de la vie personnelle, elle a beaucoup de jeunes dans les pays arabes aujourd'hui n'ont plus envie que ce soit leur famille qui décide, par exemple, avec qui ils se marient, quelles études ils font et quel métier ils vont exercer. Voilà, il y a une individualisation. Alors, j'espère qu'il n'ira pas peut-être jusqu'à l'individualisme qu'on connaît dans nos sociétés et avec ses défauts. Mais globalement, enfin, quelque chose où les jeunes ont envie d'exister comme individus et plus seulement comme membres d'un groupe.
En voilà une bonne nouvelle.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Sur Radio Grenouille.
Ce que vous aimez dans cette émission, c'est peut-être aussi l'éclectisme. On quitte un petit peu l'Égypte pour aller plutôt du côté des États-Unis et de la folk music, cher à mon cœur, vous le savez. Pause musicale dans l'instant 2 avec Nina Hübner, c'est mon choix. C'est Mumford & Sons, ils reprennent Simon & Garfunkel et ça s'appelle The Boxer.
I'm just a poor boy, though my story seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Well, lie, 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 lie. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out in my winter clothes and wishing I was home, going where the New York City winters aren't bleeding me, going home. La 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 la.
Thank you.
stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out. In his anger and his shame, I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie, lie, lie.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Mais oui, vous l'avez déjà fait si vous nous rejoignez, bienvenue. Sinon, merci d'être encore avec nous. C'est Nina Hubinet, journaliste et puis journaliste sensible. Tiens, je le retiens, ça c'était bien. Et réalisatrice d'un web documentaire. Vous nous donnez l'adresse du webdoc, tiens, qu'on puisse illustrer tout ça.
C'est égyptefranceculture.com, en gros.
Ouais.
Mais si vous tapez sinon la voix des jeunes, Égypte, France Culture, dans Google, vous le trouvez.
France Culture, quand même.
Oui, tout à fait.
Ouais, un peu c'est... classe. Après Radio Grenouille, bien évidemment. Mais oui.
Oui, d'autant plus que le fait que France Culture diffuse le web documentaire nous a permis aussi de faire un documentaire radio, donc pour le coup seulement son,
Champ libre,
en parallèle.
Hein, c'est ça.
C'est dans l'émission Sur les docs que ça a été diffusé, et donc ça s'appelle Égypte, carnet intime d'une révolution. Donc on est encore dans les carnets de révolution.
Oui, c'est
mais
bien.
Voilà, et là c'est nous, donc notre point de vue, les quatre journalistes qui racontons la révolution comme on l'a vécue nous. Donc c'est plus le point de vue des jeunes Égyptiens, c'est notre point de vue de petites journalistes étrangères pendant la révolution.
C'est intéressant ça de faire un miroir comme ça, parce que vous aviez à peu près le même âge en fait finalement.
Oui,
et quand on réalise un web documentaire sur des jeunes, ces cinq jeunes que vous avez suivis, ça fait un sacré écho sur la vie qu'on mène quand même, non?
Oui, bien sûr, ça a changé aussi notre vie de vivre cette révolution.
De quelle manière? Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant, ou inversement, je sais pas. Je ne bois plus.
Non. C'est juste que, déjà, ça montre que un soulèvement populaire comme ça est possible. Enfin, c'est quelque chose qu'on a plutôt l'impression, notre génération en France, on a plutôt l'impression que ça fait partie du passé. C'est des choses qu'on apprend dans les livres d'histoire, la révolution, enfin les différentes révolutions qui ont eu lieu en France. Mais voilà, le fait de le vivre de l'intérieur, on se rend compte que oui, c'est possible, et toujours aujourd'hui. Et je pense que ça donne de la force pour mener ensuite
d'autres projets, des combats.
Ouais. Et aussi à l'intérieur de nos sociétés, je pense.
Il y a un portrait dans le webdoc, oui, bien sûr, ça fait un écho. Dans le webdoc, c'est Kyrillos, c'est ça?
Oui,
un étudiant copte, il dit, dans une des vidéos, il faudra au moins 15 à 20 ans pour que l'Égypte redevienne comme avant la Révolution.
Alors, c'est pas lui qui dit ça, en fait. C'est donc une vidéo qu'on a tournée en février 2012, où c'est une discussion entre plusieurs jeunes coptes. Il y a Kyrillos qui est là avec eux. En fait, ils sont un petit groupe de jeunes de la paroisse qui se réunissent une fois par semaine, en gros. Et d'habitude,
ils parlent... Les coptes, donc les chrétiens d'Orient.
Ouais, les coptes, c'est les chrétiens d'Égypte, ouais. Donc, qui représentent à peu près 10% de la population égyptienne. Donc, ils se réunissent, ce groupe de jeunes, une fois par semaine, pour discuter de textes religieux, en général, ou alors pour réviser leurs examens. Et ils ne parlent pas du tout de politique, habituellement, mais comme là, on était venus avec une caméra et qu'on leur a posé une question sur la révolution, en gros, comment ils se situaient par rapport à ce qui s'était passé un an avant, oui, puisque c'était un an après la révolution. Là, il y a un grand débat qui s'est engagé.
Houleux, un peu.
Houleux, tout à fait, ouais, avec des avis très différents. Et c'est intéressant de voir ça, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'image des chrétiens d'Orient qui, en général, qu'on voit comme étant très anti-révolution, très timorés, parce qu'ils ont peur que les islamistes arrivent au pouvoir et que ça soit évidemment néfaste pour eux. Et c'est c'était plutôt le sentiment, enfin, oui, c'est le sentiment qu'il y avait beaucoup de Coptes en Égypte, mais il y avait aussi une partie des Coptes, et notamment parmi les jeunes, qui se sont dit, comme Kyrillos, qui se sont dit, mais si ça se trouve, cette révolution, c'est l'occasion pour nous de devenir des vrais citoyens, de plus être des citoyens de seconde zone discriminés, comme le sont aujourd'hui les Coptes en Égypte, par l'État, hein, par... Et donc d'être des citoyens à part entière, où on ne fait plus état de notre religion, le fait qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, ne changerait plus vraiment quelque chose. Donc il y a eu cet espoir-là aussi pour une partie des jeunes Coptes.
Il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les révolutions arabes, c'est aussi les outils numériques. Je vous pose la question, les réseaux sociaux, sans Facebook, sans les vidéos, sans les portables, ça aurait été différent, la révolution ?
Oui, c'est surtout en amont de la révolution
en
fait,
Égypte,
que ça.
Hein, ouais, j'entends.
En Égypte, c'est vraiment en amont de la révolution que ça jouait un rôle essentiel. C'est-à-dire que pendant l'année qui a précédé la révolution, il y a eu notamment un événement qui a été très important, qui est le meurtre de Khaled Saïd. Donc, c'était un jeune qui vivait à Alexandrie, qui avait en sa possession une vidéo sur laquelle on voyait des policiers d'Alexandrie qui récupéraient de la drogue, donc ils avaient saisi à des trafiquants, et qui la revendaient. Et ils voulaient mettre cette vidéo en ligne. Et en fait, avant qu'il ait pu le faire, des policiers en civil sont venus l'arrêter et l'ont amené dans la rue, l'ont tabassé dans la rue et l'ont laissé pour mort, en fait, l'ont battu à mort.
Ça a été filmé ?
Ça n'a pas été filmé,
ouais.
Mais il y a eu des témoignages. Et sa famille a recueilli son corps je ne sais plus s'ils l'ont recueilli dans la rue, enfin quelques jours plus tard.
Ouais.
Enfin, toujours est-il que du coup, cet événement-là est devenu complètement emblématique pour une bonne partie de la jeunesse égyptienne. Par exemple, Solefa nous a dit que pour elle, ça avait été déterminant. Ça avait
déclencheur.
Oui, ça avait déclenché son engagement politique. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, si ce jeune-là, qui faisait pas partie d'un groupe politique, d'un parti, qui n'était pas particulièrement activiste, si lui, on peut le tabasser comme ça dans la rue et le laisser le tuer sans que ça déclenche aucune réaction, en tout cas au niveau de l'État, ça veut dire qu'on est tous menacés et qu'on peut tous y passer en toute impunité. Donc il faut faire quelque chose, il faut changer ça, et ça a déclenché, en fait, c'est pour ça que j'en parle par rapport aux réseaux sociaux, parce que du coup il y a une page Facebook qui a été créée à ce moment-là, qui s'appelle Kulina Khaled Saïd, nous sommes tous Khaled Saïd.
Bien avant nous sommes tous Charlie.
Tout à fait. et en quelques mois, il y a eu plusieurs millions de likes sur cette page, et cette page a relayé tous les appels à manifester avant le 25 janvier, les 3-4 semaines qui ont précédé. Ils ont mis en ligne continuellement les appels à manifester pour la journée du 25 janvier. Donc ça a été un des moteurs de la mobilisation. Après, par contre, pendant la révolution, l'État a coupé complètement Internet et les téléphones, Internet pendant plus de 5 jours. Donc ça n'a plus été un outil vraiment pendant le soulèvement, mais en amont, oui, ça a été déterminant.
Restons sur du positif, ça l'est encore aujourd'hui, hein. Espoir, jeunesse, révolution numérique, on en parle, c'est le moment de parler d'une radio, une radio que vous connaissez ici à Grenouille, Radio Souriali, c'est le moment reportage de Lauriane Toulemont en Syrie dans l'Instant 2.
L'Instant 2, l'Instant 2, reportage. Dégage Bachar, le cri révolutionnaire syrien éclate dans les rues d'Homs, Alep, Hama, Damas. Le 15 mars 2011, les premières manifestations pacifistes commencent en Syrie. Inspirées par le printemps arabe, les Syriens réclament la liberté, Dieu et rien d'autre. Depuis plus de 50 ans, le pays est tenu d'une main de fer par le Baas, le parti alaouite au pouvoir, à sa tête Hafez puis Bachar el-Assad. Ceux qui souhaitent une société libre et démocratique sont enfermés et bien pire. C'est le cas d'Iyad Kallas, menacé. Il quitte la Syrie en 2009. En France, il va pourtant continuer de défendre la liberté d'expression sur les ondes.
En juin 2011, j'ai crié avec des collègues, avec des amis même. On a crié en radio qui s'appelle One Plus One. C'était en radio révolutionnaire à 100%. C'était pour soutenir la révolution. On avait des journaux, des reportages, des histoires, des trucs pour la sensibilisation, d'appeler les gens à joindre la révolution et les mouvements populaires.
Mais ça ne suffit pas pour Iyad et ses amis. La révolution se transforme, leur radio aussi.
À la fin de 2012, on savait que ça va durer très 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 longtemps. Et on ne peut pas continuer comme en radio de révolution. On ne peut pas continuer avec des équipements très simples, très légers. La radio de A à Z a coûté 10 euros par mois. C'est moi qui ai payé 10 euros par mois. C'était juste pour avoir un espace sur Internet.
En 2012, Iyad s'associe avec trois autres personnes. Chacune a des compétences bien particulières pour monter le projet d'une radio. Souriali, un jeu de mots entre la syriémienne et surréaliste.
Moi, j'ai l'expérience au niveau informatique, gestion, management et tout. Caroline avait l'expérience, le branding, comment gérer au niveau marketing et tout. Honey, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la radio. Il était la personne numéro un dans le domaine radio en Syrie avant de partir. Il avait l'émission de matinée numéro 1 en Syrie, écoutée par 7 millions de personnes.
Avec plus de 23 bénévoles à son actif, l'équipe de Souriali est aujourd'hui dispersée dans 17 pays. La rédaction virtuelle n'est pas faite que de journalistes. Des spécialistes s'invitent aussi au débat, du metteur en scène en passant par l'écrivain. Cette organisation fait de Souriali un cas typique de radio communautaire, selon Erlène Ansker, chercheur en information et communication à Nanterre.
Ils sont professionnels dans le sens où médias communautaires, c'est l'intelligence collective. C'est un regroupement de citoyens et chacun a sa spécificité, chacun a ses compétences et ils les mettent en commun. Et c'est dans cette collectivité, dans ce rassemblement de compétences, qu'on trouve le professionnalisme du média communautaire.
Pour Erlène Ansker, le fonctionnement même des radios comme Souriali est vital dans une société soumise à la pression du régime.
L'avantage d'un média communautaire dans un pays en guerre peut être de créer du lien social entre les gens, de leur permettre de se comprendre, d'avoir une autre voix qui n'est pas celle qui est imposée par l'État ou le gouvernement.
Iyad Kalas n'a pourtant pas eu peur de s'attaquer à la complexité de la société syrienne.
Avant, il n'y avait pas une identité syrienne. Il y avait une identité de parti basse. On était tous pareils. On n'avait pas la culture du dialogue en Syrie avant, comme on était tous imprimés. Et là, on essaye de parler, de trouver une identité qui nous ressemble tous. L'identité syrienne, vraiment. C'est-à-dire, au niveau religieux, on parle avec tout le monde. N'importe quelle religion, à la 8, chrétien, musulman, chiite, on a 24 confessions religieuses en Syrie. Au niveau ethnique, on a presque 7 en Syrie, on parle avec tout le monde. Des fois, on essaye de parler toutes les langues qui existent en Syrie, même si c'était un peu interdit avant.
Souriali s'offre aux voix des Syriens, même des moins pacifistes. Il y a 3 mois, la radio a ainsi interviewé un ancien combattant du groupe djihadiste Al-Nostra.
Il était un activiste pacifique. Au début, il a perdu toute sa vie, en fait. Il a perdu sa famille. Il est devenu un combattant avec l'armée syrienne libre. Après, il est devenu un combattant avec Al-Nostra. Et là, récemment, il a décidé de quitter la guerre, de quitter le pays, et il est allé en Turquie. On l'a rencontré en Turquie et on a fait l'interview avec lui.
Que ce soit les attaques aux armes chimiques ou les meurtres et tortures de masse, Souriali n'épargne aucun sujet, mais elle les traite tous à l'échelle de l'humain, au-delà des atrocités de la guerre.
Pour nous, c'est pas le journal de 20h30 tous les jours, non. C'est vraiment de parler avec les gens, de partir dans les petites villes et parler avec les gens et discuter avec eux et laisser les paroles à eux. C'est eux qui portent les informations aux autres. C'est la discussion qu'on peut avoir autour d'un café, pas dans un salon élitiste des politiciens.
Et la recette marche auprès du public de Souriali.
On peut considérer que Souriali aujourd'hui, il a les meilleurs chiffres par rapport aux autres médias en Syrie. Par Internet, tout est mesurable. On sait ce qui a écouté sur notre site internet, sur notre application portable, mobile, de smartphone et tout ça.
Le plus difficile pour Souriali, c'est de mesurer l'audience sur la bande FM. En Syrie, la radio est diffusée sur les ondes d'une autre radio indépendante, Hawa Smart.
C'est une boîte dans une voiture qui bouge tout le temps pour diffuser le signal. On peut dire qu'on diffuse dans 7 villes en Syrie qui sont habitées par 4 millions de personnes.
Les émissions de Souriali dépassent les frontières de la Syrie car le thème des conflits armés touche tout le Moyen-Orient.
On a remarqué qu'on a pas mal de publics en Irak, au Liban, en Palestine, en Jordanie. C'est les pays qui ont le même problème en fait. Quand on parle d'une explosion dans un quartier, bah, les gens au Liban, ils comprennent tout de suite. Quand on parle de checkpoint ou en conflit sectarien, les gens en Irak comprennent tout de suite.
Avec plus de la moitié des Syriens hors du territoire, Souriali cherche à tisser le lien social là où il y a des Syriens. En France, Souriali s'est associé avec Radio Grenouille, une radio associative marseillaise, pour monter un projet d'émission mensuelle, une collaboration naturelle, selon Nelly Fletcher, chargée de projet à Radio Grenouille.
Grenouille, c'est une radio locale méditerranéenne. Et elle est à Marseille, elle est sur la rive nord de la Méditerranée, mais c'est une radio méditerranéenne qui, depuis longtemps, cherche à arrêter de prendre la parole à la place des autres. Et évidemment, l'idée, c'était de collaborer avec d'autres qui sont pas si loin que ça, en fait. Hein. Ils sont voilà, de l'autre côté de cette mer qui nous réunit.
Radio Souriel.
Radio Grenouille.
Côte à côte,
nos shots.
Lancée en janvier dernier, l'émission Côte à côte s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par l'actualité de la société syrienne, du Moyen-Orient à l'Europe, un univers que Nelly ne pensait pas du tout connaître.
Pour moi, la Syrie, c'est quand même, même si c'est là, juste à côté de nous, c'était malgré tout loin dans ma tête. Et je me suis rendu compte d'une toute petite chose, mais essentielle pour moi, c'est que depuis des années, je situais Alep au Liban et j'utilise moi du savon d'Alep depuis une dizaine d'années, tous les jours.
Cette anecdote légère de Nelly, c'est une façon de changer du discours guerrier rhétorique quand il s'agit de la Syrie. La vie continue, c'est le nom des premières émissions communes de Souriali et Grenouille, de Damas à Marseille. L'essentiel pour Iyad, c'est de donner de l'espoir aux Syriens.
Pour nous, le journalisme, c'est ton autorité. C'est de faire le suivi et de parler tous les crimes. Peut-être la guerre va continuer des ans et des ans en Syrie et il y aura des quartiers qui seront complètement écrasés. Et c'est notre rôle de documenter l'histoire de ces quartiers, l'héritage de ces quartiers, les histoires des gens qui ont vécu dans ces quartiers. On le sait bien que les gens qui vivent dans une zone de guerre, ils ont besoin de savoir qu'il y a une vie qui continue, pour eux et pour les autres. Les gens, ils sont déjà presque morts, et si on tue les rêves des gens, ça serait encore plus dur pour eux.
Les perspectives d'avenir sont sombres pour la Syrie, mais Iyad croit encore à la nécessité de diffuser un message pacifiste à la radio.
Il y a des gens qui critiquent Souriali aujourd'hui, ils disent, bah voilà, on vit dans une période de guerre. Et vous, votre message, il donne l'impression qu'on a fini la guerre et on a commencé à construire le pays. Mais c'est exactement l'objectif pour nous. On travaille sur le futur du pays.
Souriali continue de porter la révolution originelle syrienne, celle d'un pays à la recherche de sa propre identité. Utopie ou réalité, ce sont les voix des Syriens qui résonnent encore sur les ondes de Souriali. Elles portent toutes un même message surréaliste, la Syrie est mienne.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
C'était le reportage de Lauriane Toulemont sur la Syrie, sur Souriali. Alors je vous regardais, Nina Hubinet, vous êtes l'invitée de l'instant 2. On a encore quelques minutes pour discuter de l'Égypte. Vous me disiez qu'il y avait des liens hein, avec vous et Souriali.
Bah, je connais Iyad et Caroline, oui, mm-hmm. que j'ai rencontrées ici à Marseille. Et notamment parce qu'ils bénéficient d'un appel à projet de la région PACA, dont je bénéficie aussi sur un autre projet qui s'appelle Les Nouvelles Antigones, dont la responsable est Nil Denis. Mm-hmm. C'est de l'association Sublime Porte. Et donc ce projet, Les Nouvelles Antigones, consiste à créer un site internet sur lequel on va publier des textes écrits par des blogueuses de tous les pays de la Méditerranée. Mmh. Voilà, et ce site devrait être en ligne début juin, donc début du mois prochain. Mmh. Et donc, enfin, le lien avec Iyad et Caroline, c'est que ben, eux nous conseillent, enfin, nous ont conseillé déjà des blogueuses syriennes, notamment voilà, qui sont pour la plupart plus en Syrie, mais en Turquie, qui ont dû fuir et qui écrivent sur leur pays. Et toute l'idée de notre projet, c'est vraiment de partir des voix singulières, de voix personnelles, de l'intime, pour parler de ces sociétés, enfin de toutes les sociétés qui sont autour de la Méditerranée et que finalement on connaît pas très bien, qu'on connaît au travers de l'actualité, mais donc de manière superficielle, et d'en parler de l'intérieur, donc avec des voix de gens qui, enfin de femmes plus particulièrement, qui y vivent.
Vous retournerez en Égypte prochainement ?
Nina ?
J'espère, oui, pouvoir y retourner à l'automne. J'ai des bagages à y récupérer. Et puis surtout des amis à voir. Ouais.
D'accord. On y retourne en musique, ça vous dit ? C'est le deuxième choix musical de mon invité de l'instant 2. Alors, c'est quoi ? C'est qui, très rapidement ?
Alors, c'est une chanson d'un groupe éphémère qui s'appelle... c'est le projet choral.
The Choral Project,
ouais. Ou Mashrou Choral en arabe. Donc, en fait, c'est des jeunes artistes égyptiens qui ont créé cette chorale en fait un peu avant la révolution, mais ça a pris beaucoup d'ampleur après la révolution, où ils proposent à des gens qui chantent déjà, d'autres qui ont jamais chanté, de se réunir et d'écrire ensemble des chansons à partir des choses qui les travaillent, des choses qui les préoccupent, et de chanter ensemble ces chansons là en public. Et donc après la révolution, il y avait une libération de la parole et une telle soif de s'exprimer qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont afflué dans cette chorale et qui ont écrit ensemble des chansons qui traduisaient toutes leurs inquiétudes, leurs espoirs de la pré-révolution.
Dont celle-ci. Nina Hubinet, qui s'appelle comment ?
Dont celle-ci, qui s'appelle en français étranger dans mon pays, dans mon propre pays, ouais. Et où ces jeunes décrivent tout ce qui dans leur société leur semble problématique, bizarre, et tout ce qui fait qu'ils se sentent pas à leur place et marginalisés.
On écoute. The Choir Project, Estranged in My Own Land. Alors Nina Hubinet, quelques minutes, secondes encore pour parler de cette chanson que vous avez choisie. Vous me racontez une petite anecdote hors micro qui était sympa, on va la faire partager aux auditeurs.
Oui, au début de cette chanson, il y a une phrase notamment où les chanteurs disent tu allumes la télévision et tu vois un cheikh, donc un sage religieux très respectable, qui t'explique que la télévision c'est haram, donc que c'est illégal du point de vue religieux. Mmh. Voilà, donc
paradoxal.
Il s'exprime lui-même à la télévision et il dit que c'est haram et qu'il faut surtout pas regarder la télé.
Il y a encore du chemin à faire pour l'Égypte. Simplement, vous êtes optimiste vous pour ce que va devenir ce pays? Vous êtes inquiète?
J'ai du mal à dire si je suis optimiste ou pessimiste. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que les choses changent et qu'il y a des vrais mouvements à l'intérieur de la société égyptienne et qu'il y a toute une frange de la jeunesse qui ne veut plus vivre comme la génération de ses parents. Donc, pour moi, je pense surtout que de toute façon, il y aura des changements dans les années qui viennent. Alors après, la contre-révolution, là, ça peut durer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça peut aussi changer dans 2 ans. peut y avoir un autre soulèvement aussi.
Eh bien, continuez encore à nous faire partager ces images de l'Égypte. Je rappelle que votre webdoc est encore en ligne. Je vous donnerai toutes les adresses puisque cette émission était à réécouter en podcast sur radiogrenouille.com. Je vous remercie, Nina Hubinet.
Merci à vous.
Merci de votre présence, de votre regard de journaliste sensible sur ce pays, l'Égypte. Merci à Lauriane Toulemont pour son reportage. Merci à Yad Kalas pour sa participation, à Caroline Donati et Sébastien à la réalisation égyptienne de cette émission. Je vous dis au mois prochain, au mois de juin, on partira dans un autre domaine, l'humour plutôt, avec Nicole Ferroni. Ce sera le dernier instant 2 de la saison. Oh, tristesse. Pour l'instant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être indigné et révolté.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.